Bonsoir, souvenez-vous, c'était il y a deux ans pile, bon à deux jours près exactement, le 23 juin, c'était la surprise en ce début d'été 2016. Oui, les Britanniques qui disaient non à l'Union Européenne. Le fameux Brexit était lancé et à l'époque c'était un véritable coup de tonnerre. Deux ans après, c'est le grand flou hein, sur les futures relations entre l'Union et le Royaume-Uni. Sur la frontière irlandaise également, le fameux déménagement de la City, hein. Bon, pour l'instant au statu quo, hein, très bien. On ne parle même plus du 31 mars 2019, mais d'une période transitoire qui va commencer juste après. Bon, très bien. En même temps, depuis deux ans, on a l'impression qu'on a vécu avec ça, qu'on a appris justement à vivre avec ça. Ça veut dire quoi? Le Brexit ne fait plus peur? Ça veut dire quoi? Le Brexit devient un non-événement? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Tiens, on en a fait des émissions des décodeurs de l'écho sur BFM Business dans les décodeurs de l'écho. Tiens, le réalisateur Martin Huard pour en témoigner, bien sûr. Alors, nos décodeurs de l'écho, ce soir, deux ans après, donc, oui, je le disais à deux jours près, hein, on est avec Stéphane Giordano, qui est le président de l'AMAFI. C'est l'association des marchés financiers, c'est-à-dire tous les professionnels en France de la finance. Marc Lhermitte, bien sûr, Marc Lhermitte, celui qui, chaque année, vous raconte l'attractivité de la France avec un très bon cru 2019. Il est associé dans le grand cabinet d'audit international EY Delphine Liu, qui suit pour BFM Business tous les dossiers européens. Thierry Drillon, qui est avec nous, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique, c'est le président d'Euro Media Group. Et puis le professeur Philippe Juvin, qui est eurodéputé Les Républicains. Ça sera intéressant justement d'avoir évidemment son regard vu de Strasbourg ou de Bruxelles. C'est selon, bien sûr. Tiens, deux ans après, où est-ce qu'on en est? Oui, je disais, théoriquement, bah, c'était le 31 mars 2019, dans moins d'un an maintenant. Bon, très bien. Maintenant, on parle d'une période de transition jusqu'à fin 2020, le temps de mettre en place un nouveau partenariat. On n'y est pas, le 31 mars 2019, c'est intenable, Marc Lhermitte, non?
C'est intenable dans à ce niveau d'incertitude, d'aller-retour, d'aller à politique, de négociations cachées, ouvertes. On sait bien qu'à la fin, la copie sera différente de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. On est encore à l'étape de scénario. Enfin, scénario, pas tout à fait, parce que les banques, les services financiers, le monde de l'industrie financière a à peu près pris des décisions, les a pas totalement appliquées en transférant, adaptant ces organisations. On est maintenant dans le vrai monde économique, c'est-à-dire tous les secteurs qui pourraient, dans l'hypothèse la plus hard, être très affectés par le Brexit pour des raisons logistiques, pour des raisons fiscales et douanières.
D'emploi aussi.
D'emploi, bien sûr, de capacité à attirer des talents, bien sûr. Et qui donc sont dans le scénario A, le B, le C, les contingency plans, et à un an, ça commence à devenir très urgent.
Ouais, alors, bah oui, pourquoi ça devient justement, pourquoi c'est problématique comme ça? Je vais citer Michel Barnier, qui est le négociateur en chef de l'UE, qui expliquait il y a une semaine que l'UE ne se laissera pas impressionner par le Royaume-Uni dans les négociations sur leur futur partenariat. Delphine Liu, des tensions toujours avec l'Union européenne, ça bloque où? On en est où des discussions?
Alors, on a un petit peu avancé en décembre dernier. On est arrivé à un accord, notamment sur le chèque de sortie, hein, qui posait problème, hein, le montant donc du divorce en quelque sorte, 50 milliards d'euros. On s'est aussi accordé sur le droit des expatriés. Il y en a quand même 3 millions ressortissants de l'Union européenne qui habitent au Royaume-Uni. Globalement, hein, ceux qui peuvent prouver qui habitent là depuis un certain temps conserveront les mêmes droits.
Le gouvernement britannique, d'ailleurs, cet après-midi même, a expliqué, voilà, les Européens présents au Royaume-Uni pourront commencer à s'enregistrer dès l'automne pour obtenir un titre de séjour permanent après le Brexit.
Alors, voilà, ils n'auront pas besoin de visa. En revanche, pour les nouveaux arrivants, là, effectivement, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Mais enfin, voilà, eux, en tout cas, les droits de ceux qui habitent là depuis au moins 4 ou 5 ans sont préservés. Et puis, sur la Cour de justice de l'Union européenne, là aussi, on a avancé. En revanche, il y a deux gros problèmes qui sont toujours en discussion. Tout d'abord, la question irlandaise, et puis la nature des relations hein, qui vont donc prévaloir entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
Et justement, l'actualité de ce jeudi, c'était une visite hein, de soutien de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui est venu voir le Premier ministre irlandais donc à Dublin. Dublin et Bruxelles qui pressent Theresa May d'apporter une réponse sur cette fameuse frontière irlandaise. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un post-frontière? Voilà, évidemment, les Irlandais du Nord, les Irlandais du Sud n'en veulent absolument pas. Jean-Claude Juncker, donc cet après-midi.
Je suis fermement opposé à toutes les tentations qui consistent à isoler l'Irlande et à faire échouer le deal. L'Irlande doit faire partie du deal.
Ouais. Ça porte sur quoi ce conflit de la frontière irlandaise, Delphine ?
Mais en fait, le Brexit, ça veut dire la résurgence d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, donc province britannique, et puis la République d'Irlande, qui va évidemment, elle, rester dans l'Union européenne. Le problème, c'est que, vous savez, il y a eu des troubles pendant 30 ans, des milliers de morts. En 98, enfin, un accord de paix. Et beaucoup en Irlande redoutent que, finalement, le retour des postes frontières, ça puisse éventuellement réveiller certains groupes paramilitaires, voilà, le retour de la violence après 20 ans de paix, et puis évidemment tous les problèmes que ça peut poser pour la fluidité des rapports commerciaux qui sont évidemment extrêmement importants entre les deux Irlandes. Theresa May promet qu'il y aura pas de retour vraiment de frontières physiques. On va essayer d'automatiser tout ça. Bon, pour l'instant,
il y a une frontière où il y en a pas. On va pas commencer.
C'est extrêmement nébuleux et ça inquiète donc tous les Irlandais et du Nord et du Sud.
Quand vous entendez Philippe Juvin, vous êtes eurodéputé évidemment. Bon, outre votre service que vous gérez évidemment à l'hôpital Georges Pompidou tout près d'ici, mais vous êtes évidemment eurodéputé. Les propos de Michel Barnier, ça traduit quand même une forte tension, donc.
Et bien sûr, on est tous très inquiets. Le 30 mars prochain, le Royaume-Uni est un pays tiers. Et en fait, quand vous dites un an, c'est beaucoup moins, parce qu'il faudrait que dès octobre ou novembre, nous ayons un texte prêt pour qu'il puisse être ratifié. Il y a un temps de ratification par le Conseil, par le Parlement européen, par les Britanniques eux-mêmes. Et on considère que si on n'a pas un texte en novembre, eh bien, il n'y aura pas de deal. Alors, où ça coince aujourd'hui? Ça coince sur un certain nombre de sujets catégoriels, par exemple les coopérations judiciaires, on n'est pas d'accord, les affaires liées des coopérations économiques. Je vous rappelle que l'Union européenne a signé 750 accords internationaux avec le reste du monde.
Bien sûr.
Et le lendemain de la sortie du Royaume-Uni, ils n'ont plus ces accords. Et puis, il y a évidemment l'Irlande. C'est très complexe, parce que là, les Britanniques sont très ambigus. En fait, ce qu'ils veulent, c'est les avantages du marché unique. Pas de barrière entre les deux Irlandes. Et pas les contraintes du marché unique. Et comme ils disent, non seulement on ne veut pas de barrière entre les deux Irlandes, ils disent, mais en même temps, on ne veut pas de barrière entre notre Irlande, l'Irlande du Nord, et le Royaume-Uni. En clair, il y a une volonté de contourner le marché unique et de faire en sorte que, grâce à cela, eh bien, ils pourront participer à avoir tous les avantages de celui-ci sans aucun des inconvénients, aucune des contraintes.
Vous voulez me dire un mot, Marc Lhermitte ?
Non, je pense que c'est ce qu'on voit là, c'est une période absolument horrible. Une grande distraction, disent certains, et un vrai problème d'entreprises vu, en tout cas, de la part de l'économie réelle, des entreprises qui ont à commercer, à recruter, à investir, et qui, au moment où la croissance repart, où l'économie se porte un peu mieux, se trouve perturbé par ce fait géopolitique dans un pays majeur, autour d'un pays majeur.
Le Brexit, c'est vraiment une ombre qui plane sur la croissance, à l'instar de ce qu'on raconte sur BFM Business en permanence, la guerre commerciale, par exemple, les incertitudes sur le relèvement ou pas des taux de la BCE, enfin voilà tout
oui,
ça.
Oui, je pense que dans la tectonique des plaques mondiales, j'oserais dire, parce que le Royaume-Uni et le Grand Londres notamment avaient acquis une place, construit une position de capitale financière, de pays d'entrée, de non seulement d'investissements américains de la net économie, mais aussi d'investisseurs indiens et chinois qui trouvaient à Londres à peu près ce qu'ils devaient trouver au détriment de Paris. On en reparlera sans doute. C'est en train un peu de se rééquilibrer. C'est quand même aujourd'hui, dans ce moment où tout le monde devra se réjouir d'un peu plus de croissance, capacité d'investir, l'argent disponible, on a une grande distraction, encore une fois, à laquelle s'ajoute celle qui, outre-Atlantique, fait peser des menaces sur le commerce, quelques menaces au sud et à l'est de l'Europe. C'est probablement un problème dont l'Europe pouvait se passer.
Donc finalement, oui, ça n'est pas forcément un non-événement, ce Brexit. Ça reste quelque chose d'important, même si on l'avait un petit peu non pas mis entre parenthèses, mais on a appris à vivre avec depuis 2 ans. Thierry Drillon, justement, l'homme des entreprises, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique.
Alors écoutez, 2 commentaires et je vais essayer d'apporter une note positive.
Bien, c'est toujours bien.
Sur ce plateau. La première chose, effectivement, et je rebondirai sur ce que dit Marc, vous savez, les entrepreneurs, ce sont des gens très pragmatiques, très concrets. Et ils n'aiment pas l'incertitude. Aujourd'hui, il y a cette incertitude, cette zone grise. Et de facto, en bon chef d'entreprise, ils sont obligés d'avoir un plan A et un plan B. Donc toutes les entreprises ont construit leur plan A et leur plan B. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose...
Oui, mais enfin, pardon, je vous interromps. Oui, c'est ce qu'on disait au début. C'est ce qu'on disait en 2016, début 2017. Mais là, on est mi-2018. Le plan A, le plan B, il faudra peut-être un moment trancher. Hein,
alors, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que lorsque j'observe les dirigeants d'entreprise, à la fois côté anglais ou côté français, il y a beaucoup de pragmatisme, il y a beaucoup de concret. Et quand je regarde aujourd'hui l'ensemble des relations business entre les deux pays, elles sont soutenues, elles sont fortes et elles continuent d'être à un très très bon niveau. Donc le niveau de confiance aujourd'hui n'a pas été totalement sacrifié sur l'autel du Brexit.
Alors, deuxième point sur lequel vous vouliez insister, Thierry Drillon.
C'était les deux points.
Bon, bah, très bien, voilà.
Il faut quand même juste peut-être une
Delphine,
petite parenthèse sur
Jordano.
Ce chapitre économique. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus tout de suite, mais on a quand même vu une économie quasi stagnée au premier trimestre. Des contrats, une activité manufacturière industrielle qui ralentit, et puis surtout des contrats venant de l'étranger qui habituellement étaient vraiment forts actifs. Et qui là, eh bien, sont en chute libre à cause justement de cette incertitude.
Et la City, la fameuse City dont on disait, ouais, elle va se vider, il va y avoir un appel d'air venu du continent. Alors on ne sait pas jusqu'où, Francfort, Paris, Luxembourg, etc. Stéphane Giordano, président de la MAFI, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On attend? On temporise. Là, le plan A, le plan B, là, on l'a dégainé aussi.
La plupart des établissements se préparent et se sont préparés à l'hypothèse la plus dure du Brexit, c'est-à-dire une sortie sans deal à fin mars 2019. Ça ne signifie pas pour autant des transferts massifs d'activités. C'est quelque chose qui va se passer probablement dans la durée. Mais d'ores et déjà, on a des signaux. Alors, c'est des signaux à bas bruit. Mais on a des signaux du fait qu'il y a des gens qui se relocalisent sur le continent. Typiquement, on entend dire qu'il y a un peu plus de place au lycée français à Londres. Il y a un peu moins de place dans les écoles internationales de la région parisienne. C'est quelques milliers, peut-être dans le meilleur des cas, une dizaine de milliers d'emplois qui seraient relocalisés de la City vers le reste de l'Europe. À l'échelle de la City, c'est très peu. Dans la durée, il est vraisemblable que les choses pourraient évoluer sur le long terme et on pourrait voir apparaître un monde financier assez différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec Londres toujours une place importante au niveau international, mais des places européennes, et pas une place européenne, mais des places européennes, donc un monde multipolaire à l'avenir pour le financement de l'économie européenne.
Donc plutôt de l'attentisme, ça pourrait se déclencher quand? Est-ce qu'on peut supposer, imaginer que cet été ou à la rentrée, ça y est, les banques, les établissements financiers abattent leurs cartes, disent...
Personne ne veut... En fait, tout le monde joue à l'idée que ça va quand même se régler. J'entendais même la Commission européenne dire au début juillet, Madame May va publier un rapport dans lequel probablement il y aura enfin des propositions. Or, on sait que probablement dans ces propositions, il y aura des choses qui ne seront pas acceptables. Par exemple, la participation à une union douanière qui serait une union douanière qui exigerait d'avoir les mêmes avantages que l'actuelle union douanière sans possibilité pour l'OLAF ou la Cour européenne de jouer un quelconque rôle.
L'Office antifraude.
Et donc on voit bien que nous préparons, nous, ce qui n'était pas le cas il y a un an, à une sortie sans deal. Et il y a actuellement des réunions de préparation aux conséquences d'une sortie sans deal qui n'était pas envisageable intellectuellement il y a un an, mais aujourd'hui, techniquement, on la prépare.
Ce qui n'est pas sans, et on y reviendra tout à l'heure dans quelques minutes avec vous, définis-nous, sans tension même au sein même du camp conservateur. Camp conservateur, il ne sait pas très bien entre les europhiles, les europhobes, et Theresa May, elle est obligée évidemment de jongler entre tout ça. Oui, alors justement, simplement, est-ce que vous pensez, Stéphane Giordano, que les cartes vont être abattues, peut-être, après l'été, à la rentrée, parce qu'à un moment, il va falloir quand même prendre une décision. Hein.
Encore une fois, les établissements ont des plans qui sont extrêmement précis et qui sont prêts sur la base d'un no deal. La mise en œuvre, c'est-à-dire le fait de déplacer les gens, ça peut intervenir en réalité assez tard. Et donc probablement lorsque il y aura une conviction assumée d'un no deal. Donc ça peut être à l'automne, d'autant que les établissements à Londres sont assez peu incités à être les premiers à bouger, tout simplement parce que, et c'est assez naturel, les gens qui sont installés à Londres ne sont pas nécessairement volontaires pour venir se relocaliser sur le continent ou à Dublin. Et donc, si vous êtes le premier à leur dire qu'il va falloir se relocaliser, vous risquez de les perdre. Donc il y a une espèce de course de lenteur sur la mise en œuvre des plans, mais les plans sont là et je ne doute pas qu'ils seront mis en œuvre et probablement à la rentrée, si l'hypothèse d'un no deal se confirme.
Ouais, alors Marc Lhermitte, c'est Caroline Morisseau qui suit ici les dossiers bancaires à la rédaction de BFM Business qui a mené l'enquête. C'est vrai que depuis quelques mois, Paris, qui passait pour la grande perdante face à Francfort, apparemment aurait réussi à inverser la tendance au point d'attirer plus d'emplois que Francfort. On parle de 3500 versus 3000, voilà ce qu'expliquait Caroline Morisseau. Alors on sait qu'il y a HSBC, hein, il y a Bank of America, JP Morgan qui ont déjà opté pour la France. Pourquoi un tel revirement à vos yeux, Marc Lhermitte, associé chez EY?
Parce que, comme le disait Stéphane Giordano, on a en fait le Brexit bouge les lignes et finalement rééquilibre. Moi, je vais être optimiste comme Thierry Drillon, parce que finalement, on aura une Europe à l'issue de cette transition entre un moment de l'histoire économique et de la localisation des activités en Europe où le Royaume-Uni avait réussi à concentrer, attirer avec une politique fiscale hyper attractive, marché du travail, un droit du travail hyper flexible. Donc tout pour réussir aux yeux de la jeune start-up californienne, de l'entrepreneur indien qui connaît des conditions encore plus flexibles et fiscalement compétitives. Et donc, à leur grand crédit et au grand bonheur de l'économie britannique, avait accueilli un siège social européen sur deux pendant 10 ans, quasiment massifié, concentré l'essentiel des activités financières de places, de marchés, centres de décision, médias financiers à Londres. Est-ce que ça c'était bon pour l'Europe? C'était sans doute bon pour le Royaume-Uni. C'est ce que c'était bon pour l'Europe? Je crois pas. Donc une répartition non seulement dans l'industrie financière, mais aussi chez les GAFA et toutes les entreprises qu'on ne nomme pas par des acronymes qui sont dans l'intelligence artificielle, qui sont dans les nanotech, les biotech, les répartir là où il y a aussi de la valeur en Europe. J'ai envie que ça soit à Paris, que ça soit à Lyon, que ça soit à Bordeaux, mais ça peut être à Bruxelles, à Amsterdam, etc. Je pense que c'est ça.
Rééquilibrage qui est souhaité, c'est ce que vous dites.
Et moi, je crois à la résilience du Destination UK. On voit que dans les résultats qu'on a présentés il y a une semaine, on a certes un coup d'arrêt sur l'implantation de sièges. Maintenant, ça n'est plus que 1/4. Quand même, 1/4. On a moins de services financiers, quasiment plus, qui s'installent à Londres. On peut comprendre pourquoi. Mais on a une montée dans les boîtes du digital, dans toutes les familles du digital, qui indique aussi, puisque on le sait, on l'a dit souvent sur ce plateau, que le gouvernement britannique, le CBI, le MEDEF britannique, n'est pas les bras ballants devant ce qui leur arrive, va chercher ces entreprises, leur apporte des conforts, des assurances, des incitations fiscales. Snapchat, Yahoo, Google ont tous annoncé qu'ils continuaient à miser sur le sol britannique. Moi, je pense qu'on est là dans une Europe multipolaire, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et c'est, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant pour l'avenir.
Oui, pas question donc de noircir le tableau vu du Royaume-Uni, hein. Si on devait vendre le Royaume-Uni aujourd'hui, quels atouts vous mettriez en avant dans ce contexte de Brexit, Thierry Drillon?
Je pense que la notion d'équilibrage, elle est extrêmement importante et elle participe finalement à faire en sorte que les différentes plaques tectoniques, pas uniquement en Europe, bougent. Hein, on peut le voir aux États-Unis, on peut le voir en Asie, etc. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu l'occasion ces derniers jours de rencontrer un certain nombre de fonds d'investissement américains. Et tout ou partie des discussions que j'ai pu avoir avec eux, c'est à la fois d'expliquer le contexte en Angleterre et puis aussi de répondre à un certain nombre de questions sur l'attractivité de la France. Donc finalement, on arrive à une situation qui est beaucoup plus équilibrée, comme le disait Marc, et de voir, je peux vous dire que c'est quelque chose que je n'ai pas entendu depuis 10 ans, de voir des investisseurs américains en disant, un, il y a des zones dans le monde dans lequel on va désinvestir pour pouvoir réinvestir en Europe, et ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose en Europe, c'est pas du tout, on désinvestit totalement en Angleterre, mais on regarde de près. Et la France constitue pour nous un territoire très intéressant d'investissement. Je voulais juste noter une chose, je pense que vous l'avez vu. Regardez quel est l'ambassadeur qui a été choisi par notre pays pour attirer les financements en France dans le domaine des technologies, pour faire en sorte que des investisseurs des pays étrangers viennent en France.
C'est l'ancien consul Martinon, c'est ça?
Non, c'est l'ancien président de Cisco au niveau mondial, qui est l'une des figures emblématiques de la Silicon Valley.
Pardon, je confondais avec comment s'appelle-t-il, David Martineau, qui est ambassadeur aussi de la tech, du numérique. Je pensais à lui. Sur le match, Paris, Francfort, Amsterdam, Dublin, je ne sais quoi encore. Les atouts des uns et des autres, c'est quoi? C'est principalement un match Paris-Francfort ou pas, Stéphane Giordano?
Alors, ça a été d'abord l'impression que Francfort raflait la mise. Oui. Paris bénéficie d'un certain nombre d'atouts. Et notamment, en tout cas dans les services financiers, l'employabilité des conjoints, c'est essentiel. La capacité à déployer une offre d'éducation avec des lycées internationaux, c'est extrêmement important aussi. Et puis un marché de l'emploi qui est déjà existant avec des compétences déjà présentes, et le fait que ça fait de nombreuses années que dans les salles de marché à Londres, on parle beaucoup français déjà. Et ça joue sans doute sur la capacité de relocalisation à Paris. Donc on devrait arriver à un jeu égal en termes de relocalisation, au moins égal entre Paris et Francfort.
Et vous aussi, vous croyez à un meilleur équilibre entre les différentes places financières?
Oui, sans aucun doute, il va émerger du Brexit dans la matière financière une Europe davantage multipolaire, ce qui d'ailleurs posera des questions nouvelles et notamment en matière de réglementation. Aujourd'hui, on a une réglementation qui était faite pour un pôle financier majeur à Londres et des pôles financiers secondaires ailleurs. Ça, il va falloir le repenser.
Si vous donnez un exemple.
On avait des réglementations qui objectivement favorisaient les plus gros acteurs souvent, en rehaussant les barrières à l'entrée. Il va falloir se poser les questions là-dessus. Il va falloir se poser la question du financement des PME-ETI. Comment est-ce qu'on finance des PME-ETI dans un monde où les sources de capitaux vont être probablement, et les intermédiaires vont être probablement multilocalisés.
De répartis, ouais.
Comment est-ce que on fait coopérer les autorités pan-européennes avec les autorités locale, comment est-ce qu'on gère la cohérence et la subsidiarité? Et ça, c'est des questions nouvelles, et malheureusement, il faut bien constater que dans les négociations en cours, l'Union européenne est très forte. Elle est très forte parce que elle a un instrument intangible, c'est les traités, et elle a un chien assez méchant qui garde le traité, c'est la Commission. Et donc toutes les concessions jusqu'à présent dans les négociations sont venues des Britanniques. Et si d'autres concessions sont nécessaires, il est très probable qu'elles viendront également des Britanniques. Mais n'a pas été pensé l'Europe d'après. Qu'est-ce qu'on veut en termes de marché financier après le Brexit? Et ça, c'est une vraie lacune, et il va vraiment falloir s'y attacher.
Juste encore sur les atouts de Paris. Pardon, je retourne vers vous, Marc Lhermitte. Quand on voit qu'apparemment Paris aurait gagné une manche face à Francfort, voilà, donc les chiffres que je donnais de Caroline Morisseau tout à l'heure, c'est quoi ce revirement? C'est quoi? Franchement, c'est ce qui se passe en France, la situation politique depuis un an ou pas? Ce que vous avez pointé d'ailleurs dans votre rapport sur l'attractivité il y a 3 semaines.
Oui, je pense qu'on ce qu'on voit, c'est quand même il y a 4-5 grandes métropoles européennes, capitales européennes qui ont pris des activités, des relocalisations de sièges. Lloyds Europe à Bruxelles, Barclays se devenu une banque irlandaise et maintenant à Dublin, à Paris HSBC a regroupé un certain nombre d'activités. Je pense qu'il y a 4-5, il faut pas oublier Amsterdam, évidemment Francfort. Ça c'est les services financiers, et c'est un gros morceau de notre économie, très important, hein, très moteur, très entraîneur, et c'est celui par lequel on a d'abord vu le Brexit. Sur le reste de l'économie, technologique, industrielle, les services, les nouvelles entreprises du e-commerce, on a là un jeu beaucoup plus ouvert, et je dirais dans ce jeu ouvert, il y a quand même 2 métropoles monde, et seulement 2 en Europe, que sont le Grand Londres et la région Île-de-France ou le Grand Paris. C'est le match d'abord qu'il faut regarder. Après, on peut regarder le match avec Munich, Francfort, etc., qui sont une taille en dessous en termes aussi de capacités de concentration de talent. Il y a énormément de talent dans toutes ces autres métropoles, mais on a 2 villes monde. Et ben, ces 2 villes monde font le match, et dans notre dernier baromètre, Paris a pris un peu d'avance en termes de perception. Et on sait que la perception précède sur la réalité. Donc je pense que ce retournement, pour ceux d'entre nous qui, depuis quelques années, Thierry Drillon le sait, aux États de la France, dans les baromètres de l'attractivité, avions connu des années difficiles pour la France et Paris, on voit là un retournement qui est très intéressant parce que finalement cet équilibrage profite à la région capitale.
Et ça, vous le sentez vous-même aussi
Oui, moi je crois que...
Professeur Juvin, vous êtes eurodéputé de l'opposition, puisque vous êtes... Bien sûr. Dans le camp des Républicains, clairement
il y a deux choses.
Ça, vous ne le niez pas.
Moi, je pense que l'élection du président Macron a évidemment changé la donne en termes de confiance, puisque vous parliez de la confiance nécessaire. De nouveau, on a confiance en la France. Ça, c'est très clair. C'est un grand avantage. Mais je crois qu'il y a une deuxième étape. C'est celle du caractère opérationnel, notre capacité à recevoir les entreprises. Et là, on attend beaucoup du président de la République, parce que vous savez que ces dernières années, la région Île-de-France a souffert d'un morcellement administratif considérable qui nuit, en fait, à la réalisation pratique d'opérations publiques. Nous sommes passés de 3 échelons, la commune, le département, la région, à 5 échelons, la commune, le département, la région, les territoires et la métropole. Et très franchement, il y a une vraie difficulté administrative dans la prise de décision de construction de lycées internationaux, la mise aux normes, le grand métro du Grand Paris, sa remise en cause financière peut aussi être un signe négatif. Donc on attend aussi beaucoup que le président de la République prenne la parole sur ce sujet, probablement juillet ou août.
Bon, allez, d'ici là, évidemment, on se retrouve sur BFM Business, les décodeurs de l'écho, 2 ans après le vote des Britanniques en faveur du Brexit, et à moins d'un an, eh bien, d'un divorce, bon, théorique, hein, on l'avait vu, vous l'avez compris. On revient vite, tout de suite sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, 2 ans après, c'est toujours très très flou hein, sur ce qui va se passer donc entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc à moins d'un an d'un divorce qui était prévu donc fin mars 2019, qui aura probablement lieu. Mais après, on parle d'une période transitoire, justement, eh bien, le temps de mettre en place un nouveau partenariat. Tiens, justement, quand on parle de nouveau partenariat, bah, ça grince hein, dans les rangs conservateurs, c'est-à-dire dans le camp de la Première ministre Theresa May. On a d'un côté les ultras, hein, les ultra-europhobes, style Boris Johnson, qui est le chef de la diplomatie britannique, qui disait qu'il y a un risque grand de voir le Royaume-Uni accepter un accord violant de nombreuses lignes rouges des tenants d'un Brexit sans concession. Il parle carrément d'un risque d'effondrement du Brexit. Hein. Et puis on a plutôt dans le camp des europhiles cette fois, eh bien, des députés qui voudraient qu'on accorde davantage d'affluence, de voix, donc d'influence au Parlement. Theresa May doit jongler entre tout ça, Delphine You. Il y avait un vote très important cette semaine, bon, qu'elle a emporté, mais voilà.
De justesse,
elle marche sur des œufs quand même. Hein,
oui, elle a réussi à étouffer dans l'œuf hein, cette fronde des parlementaires, avec effectivement donc la menace de ces conservateurs europhiles qui s'alliaient à l'opposition donc travailliste, celle des Écossais, etc., pour faire passer un amendement qui aurait pu donner un droit de veto au Parlement quant à l'éventuel accord de sortie donc signé entre la Commission et le Royaume-Uni. Alors finalement, Theresa May, évidemment, ne voulait pas de droit de veto des députés. Au départ, elle avait proposé un vote uniquement consultatif, puis finalement, elle a fait un pas en avant, parce qu'elle était bien obligée. Il y aura une consultation éventuelle des députés, un droit de regard, et c'est le président du Parlement qui pourra décider donc si les députés peuvent proposer des amendements ou pas sur cet éventuel accord s'il est un jour signé.
Thierry Drillon, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique, il est à la tête de Euromedia Group, chef d'entreprise.
Moi je souris parce que les chefs d'entreprise avec lesquels je discute me disent « on n'y comprend rien ». Il y a des micro-événements qui se passent tous les jours et finalement c'est un peu comme un plat qui n'aurait pas fini de cuire. Donc on va attendre qu'il finisse de cuire et puis à ce moment-là il y a un certain nombre de décisions fortes et d'options fortes qui seront prises et les entrepreneurs sont avant tout des gens très très pragmatiques. Et j'allais dire qu'entre-temps, ils n'ont pas d'autre choix que d'être business as usual, d'accord, et de continuer à générer leur activité. Mais je pense qu'il y a un vrai travail d'explication et de décoder les choses, parce qu'aujourd'hui, ça semble très compliqué.
Comment se porte l'économie britannique hein? C'est vrai, c'est ce que nous disait tout à l'heure Delphine. Bon, on voit dans ce contexte d'incertitude hein, des signes de faiblesse qui s'accumulent. Plusieurs exemples, commerce. On voit une enseigne de grands magasins, House of Fraser, qui a fermé la moitié de ses établissements. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que les incertitudes autour du Brexit. Bon, il y a la montée de la vente en ligne, la hausse des loyers des commerces. Mais la consommation des Britanniques, évidemment, qui est à la baisse, contrainte par la poussée de l'inflation. Il y a des menaces sur l'automobile, puisque la CBI, donc le MEDEF britannique, expliquait que le Brexit menace d'extinction le secteur automobile si le Royaume-Uni sortait de l'union douanière avec l'Union européenne. Bon, c'est pas très réjouissant quand même ce qui se passe au Royaume-Uni, Marc Lhermitte.
Hein. Non, c'est pas très réjouissant. On est dans la deuxième, allez, on va dire troisième économie européenne. Donc, ce qui n'est pas réjouissant au Royaume-Uni, je vais le dire comme ça, n'est pas réjouissant pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce moteur-là. On a un gros moteur allemand qui fonctionne assez bien, on va dire, qui est très exportateur, qui est un peu désavantage les économies qui importent un peu trop de produits allemands, mais qui est un des, voilà, le leader économique, industriel, le barycentre économique de l'Europe. La France qui se refait une santé. J'ai l'impression, dans ce que vous disiez, qu'on présentait, on faisait un peu le portrait de la France il y a quelques années. Donc on va dire que, on va être optimiste. Les Britanniques se relèveront de cette crise, qui est une crise de confiance, une crise de l'investissement, qui ne se déroule pas de la même manière à tous les endroits et dans tous les counties du Royaume-Uni. Il y a au Grand Londres, encore une fois, dans une mégapole mondiale dont personne n'a envie de partir. Je vous fais une confidence. EY, comme sans doute certains de nos très bons confrères, travaillaient auprès de quelques centaines d'entreprises sur les plans A, les plans B, les plans C. C'est pas une grande joie, d'ailleurs, parce qu'on préfère quand ça marche, quand il y a quelque chose à faire. Là, on est un peu dans les scénarios. Et le fil rouge de toutes ces accompagnement, fiscalité, supply chain, le droit, la régulation, c'est que personne n'a envie de partir du Royaume-Uni et de Londres. Mais ça va moins preuve, bien.
Je ne sais pas si c'est un témoignage ou pas, mais on voit la City qui conserve son charme. Le fonds d'investissement de Hong Kong, Li Ka-shing, il a quand même acheté pour 1 milliard de livres, donc un peu plus d'1 milliard d'euros. Un gros immeuble au cœur de la City de Londres pour qui abrite le siège de UBS.
Je pense que Theresa May est moins inquiète de Westminster et de la City que de Coventry, qui est un peu le bassin industriel automobile. Effectivement, l'étude récente qui est parue a montré l'impact éventuel, hypothétique, possible du Brexit sur l'industrie automobile. Imaginons si dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Est, on avait la même répercussion en chaîne, on serait là dans des signes d'alerte et rouges et ou rougeoyants.
Oui, tout à fait. Alors Thierry Drillon et Stéphane Giordano, président de la MAFI, juste après.
Je pense que ce que vient de dire Marc est extrêmement important, c'est-à-dire que nous devons penser avant tout à l'Europe. Et l'Europe ne sera forte que si les grandes nations sont fortes. C'est-à-dire que c'est pas un pays par rapport à un autre. On a besoin d'un Royaume-Uni fort, on a besoin d'une France forte et on a besoin d'une Allemagne forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut surtout que l'on évite d'opposer un pays à un autre. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui est malade et l'autre qui va bien, l'un qui va beaucoup mieux au détriment de l'autre. Je pense qu'on a tous à gagner, et les uns et les autres. Moi, je me réjouis de voir aujourd'hui que la France attire un certain nombre de talents, que la France, revient un peu en ordre de sainteté et passe de division d'honneur en division 1. Bon, mais c'est pas pour autant que l'Angleterre doit passer en division d'honneur.
Stéphane Giordano, président de l'Association des marchés financiers, la MAFI.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y aurait aucune raison de se réjouir d'un affaiblissement trop marqué du Royaume-Uni. En même temps, bon, il faut gérer les conséquences du Brexit et gérer notamment ce qu'on appelle nous les cliff edge, c'est-à-dire les risques de rupture, de disruption que pourrait entraîner le Brexit. En réalité, à l'examen, on estime que en matière financière, il y a assez peu de risques de rupture, même dans l'hypothèse d'un Brexit dur. Il y en a quelques-uns, il faudra les gérer. C'est des questions de continuité des contrats, c'est des questions d'accès aux infrastructures qui resteront pour certaines à Londres. C'est des questions d'échange de données, notamment dans le cadre de la réglementation européenne RGPD qui entre en vigueur. Mais un grand souci, c'est la question des entreprises et le fait que une sortie britannique sans gestion saine de toute la question des droits de douane et des ruptures de supply chain pourrait entraîner une fragilité aussi bien au Royaume-Uni d'ailleurs que dans les pays partenaires dans l'Union.
Ouais, il y a aussi une conséquence aussi. Pardon, allez-y, professeur.
Non, ce que je voulais vous dire, moi je partage votre avis. La difficulté, c'est qu'on est un peu comme dans une tragédie grecque où on sait au premier acte ce qui va se passer au dernier et on ne peut rien faire et le héros se débat. Nous, ce que nous attendons des Britanniques, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Et il est là le sujet. Si demain les Britanniques nous disent nous voulons être traités comme les Norvégiens, ou comme les Suisses, ou comme les Turcs, qui ont des partenariats particuliers, nous serions d'accord. Le vrai sujet, c'est qu'ils ne nous le disent pas.
Delphine Diou, quand on écoute Philippe Juvin, eurodéputé, la responsabilité est plutôt dans le camp des Britanniques. C'est eux qui... comment dire, qui provoque un petit peu ce blocage plutôt.
Oui, parce que finalement, ils arrivent un peu les mains vides, en quelque sorte, hein, aux négociations. Idéalement, évidemment, ils aimeraient sortir de l'Union européenne tout en conservant les avantages, mais on ne peut pas rester dans l'Union douanière si on veut en même temps fermer les frontières et avoir le contrôle de son immigration. Donc voilà, après, il y a tout un tas d'options, hein, on ne va pas les détailler ici, parce qu'il y a ce qu'on a fait avec la Norvège, avec la Suisse, etc. Bref, donc là, on parle d'un accord d'association, comme on a pu éventuellement en signer avec la Turquie ou avec l'Ukraine, sur
le Canada.
Une entente donc sur certains thèmes, l'économie, le commerce, la sécurité, Erasmus, etc. Mais bon, ce qui est très important pour les Britanniques, et Philippe Hammond, le chancelier de l'échiquier, l'a répété aujourd'hui, ils aimeraient bien quand même voir leurs services financiers qui soient inclus dans cet accord, mais pour l'instant, l'Union européenne a dit non, pas question hein, de faire du cherry picking, comme on dit, de faire un petit accord à la carte avec ce qui vous arrange.
Il y a aussi quelque chose aussi dont on n'a pas beaucoup parlé aussi. Le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, c'est donc fini de la libre circulation des travailleurs européens. D'autant plus qu'on sait que le Royaume-Uni, bon, jusqu'à présent, était sur une ligne dure en matière donc, eh bien, comment dire, de contrôle aux frontières. Brexit plus contrôle strict de l'immigration. Va falloir recruter, va falloir attirer des talents Marc Lhermitte, donc pour limiter la casse. On voit depuis quelques jours Londres qui assouplit la délivrance de certains visas de travail pour les citoyens non européens, pour les médecins, pour les infirmières, pour la tech et également. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui a été nommé, Monsieur Sajid Javida. Est-ce qu'il va être plus accueillant? Je ne sais pas. Marc Lhermitte, Philippe Juvin.
En plus, c'est la mère de toutes les batailles dans l'économie moderne, dans les entreprises qui aujourd'hui fabriquent de la valeur par le capital intellectuel, les données, beaucoup plus que par la production. On a besoin de faire circuler des talents, de recruter, d'avoir une agilité, un turnover, comme on dirait en bon français, dans nos entreprises. Et c'est probablement ce que les pays, les régions, les villes, les territoires, les entreprises, bien entendu, qui y sont localisées, doivent surveiller comme le lait sur le feu, la capacité à faire circuler, à attirer, à recruter, à les voir former. Et donc là, il y a un mur britannique qu'on vient d'évoquer, qui est celui du Brexit. On voit l'Allemagne aussi un peu, grâce ou à cause du plein emploi, j'ai peine à le dire, avoir des difficultés à entretenir la croissance et un certain nombre d'investissements. Je dirais, à l'inverse, en négatif, c'est une des forces de la France que de pouvoir apporter à peu près partout, y compris en Île-de-France où le taux de chômage est plus faible qu'ailleurs, et dans les grandes métropoles, attirer des talents et proposer sans trop de problèmes un certain nombre de personnels, de collaborateurs de tout niveau assez formés. C'est vrai que ça, c'est probablement la plus grosse menace sur l'économie britannique internationale, parce qu'il y a aussi une économie résidentielle, une économie qui continue à fonctionner, qu'il faut regarder.
Ouais, Philippe Juvin, vous qui êtes professeur de médecine, hein, je le disais donc à l'hôpital Georges Pompidou, on voit, c'est la revue British Medical Journal qui expliquait que plus de 1500 médecins étrangers qui n'ont pas pu être recrutés au cours des derniers mois. Dans les travailleurs européens arrivent au Royaume-Uni, 10% des médecins, 7% des infirmiers du Royaume-Uni.
Mais évidemment, et d'ailleurs c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne, je vous rappelle qu'en France, 25% des médecins qui sont autorisés à exercer tous les ans sont des médecins à diplôme étranger. Donc la viabilité d'un marché, du marché unique en l'occurrence, repose sur la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des services. Mais finalement, les Britanniques vont peut-être y aboutir quand même. Après avoir dit on ne veut plus des travailleurs polonais, etc., ils vont peut-être arriver à une solution de type norvégienne ou suisse qui, en fait, autorise la libre circulation sans le dire. Regardez l'affaire du chèque, ce qu'ils doivent, la prestation compensatoire.
Dont nous parlait Delphine tout à l'heure.
Il y a deux ans, ils nous disaient zéro. Hein? Là, on est arrivé à un accord et un des éléments d'accord, c'était réellement ça, n'en parlez pas trop. On va payer, mais n'en parlez pas trop. Et donc, comme ce sont des gens très pragmatiques, les Britanniques, peut-être que finalement, on va arriver à un accord à la norvégienne, mais il ne faudra pas trop le dire.
Bon, vous êtes optimiste, comme le professeur Philippe Juvin.
Je suis un optimiste tempéré.
Oui, tempéré, bien sûr. Toute proportion gardée, je disais, le Brexit fait toujours peur ou un petit peu moins? Marc Lhermitte, Stéphane Giordano,
il fait peur et c'est un moteur.
Il fait peur, pas, il inquiète, mais l'Europe est plus forte que ça.
Oui. Stéphane Giordano.
Oui, enfin, en termes de financement de l'économie, encore une fois, ça va bouleverser la façon dont l'économie européenne doit être financée, mais ça n'entravera pas le financement de l'économie et les entreprises de financement, enfin, le secteur financier déjà basé dans l'Union et qui est en train de se renforcer, a tout à fait les capacités de financer l'économie européenne.
Allez, le mot de la fin, très court, Thierry Drillon.
À la fois pragmatisme des entreprises, et puis on va oser un mot d'optimisme sur finalement un accord qui, je l'espère, satisfera l'ensemble des parties.
Merci à tous les cinq. Merci Stéphane Giordano, président de l'Association des marchés financiers, la MAFI. Marc Lhermitte, associé dans le grand cabinet EY, qui sort ce rapport, la Bible sur l'attractivité. Donc, eh bien, chaque année aux environs du mois de mai, eh bien, évidemment, à chaque fois on parlait. Delphine New, merci. Elle est journaliste à BFM Business. Elle suit notamment tous les dossiers européens, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Britanniques. Donc, Thierry Drillon, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique à la tête d'Euromédia Group. Et puis le professeur Philippe Juvin, député Les Républicains. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite. Tiens, lundi soir, il y aura la finale de la BFM Academy, lundi 25.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.